Eh bien, vous êtes sur Radio Pulse 90 FM, c'est le moment de notre interview pour C'est de la locale. Je suis au téléphone avec Nicolas. Nicolas, comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien.
Tu fais partie du groupe Christine, du duo Christine, vous faites de l'électro. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce duo et avec qui tu joues aussi ?
Alors, la petite news, c'est que ce n'est plus un duo.
Ah.
C'est un projet solo.
Ça a changé récemment, non ?
Ouais, ça a changé récemment. En fait, c'est parti de l'évolution du groupe, c'est-à-dire qu'en effet, c'était un duo à l'origine.
Mmh.
Moi, je suis le membre fondateur du projet. Et puis, il y a eu un nouvel arrivant, Martin, en 2015-2016. Et maintenant, je suis nouveau tout seul.
Voilà. D'accord.
Et donc, c'est des choix de carrière et d'envie artistique différents de la part de mes ex-associés.
D'accord. Et donc, justement, tu peux me parler un peu de la jeunesse de ce groupe, comment ça a commencé. Donc, tu dis que tu as monté ce projet à la base tout seul. Ça a débuté comment ?
Bien, ça a débuté, je dirais, un peu de manière basique, hein, par la passion de la musique. Guitariste, musicien, adolescent, au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de place. Et puis, arrivé à une vingtaine d'années, on se dit, mais quand même, ça serait bien de faire un vrai projet et d'essayer d'éventuellement gagner sa vie avec et de sortir des disques. Donc, ça s'est construit au fur et à mesure des années, et à 25 ans, je me suis vraiment lancé. J'ai rencontré le premier collaborateur de Christine, Stéphane.
Mm-hmm.
Et là, on a eu l'énergie et les bases les références qui nous ont permis de lancer Christine, quoi.
D'accord.
Comme une sorte d'évidence sur la musique qu'on voulait faire et l'univers qu'on voulait avoir.
Alors justement, pourquoi Christine ? Moi, ça me fait penser au film de Spielberg, c'est un bouquin aussi d'ailleurs. D'où ça vient à la base ?
Eh bien, ça vient de là. À la base, c'est un bouquin de Stephen King.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'adorais Stephen King quand j'étais ado. Et puis après, un peu plus tard, pendant adolescent, j'ai découvert le cinéma de Carpenter. C'est Carpenter qui a fait
ça. Oui, c'est carrément, c'est vrai que j'ai Spielberg en tête, mais c'est carrément, ouais, c'est vrai, c'est Carpenter qui a fait ça. Ouais. C'est vrai. Je me suis complètement trompé.
Mais c'est pas grave parce que finalement, le cinéma de Spielberg ou même Kubrick ou un certain nombre de réalisateurs, c'est quelque chose qui a nourri le projet. Le cinéma des années 90, en fait, 80, ouais. 90, c'est avec ça que j'ai grandi et c'est ce qui a nourri de manière un petit peu globale le projet. Après, Christine, on a choisi Christine pour la référence un peu précise du truc, mais c'est pas non plus que influencé par Carpenter.
Et justement, en parlant d'influence, au niveau musical, c'est quoi, toi, tes influences, que ce soit électro ou même pas que, enfin, ça peut être aussi carrément autre, je pense, surtout pour un projet qui mêle pas mal de choses. J'ai vu que, par exemple, il y avait un peu de hip-hop, en quelque sorte, des fois des traces qui faisaient penser au hip-hop dans vos morceaux.
Ouais, mais en fait, les influences, c'est un peu la tout ce que j'ai écouté, découvert depuis que je suis gamin, donc ça a pu commencer par le rock, le rock des années 90 avec des groupes comme Nirvana, Breeders, Red Hot Chili Peppers, cette scène qui était quand même très très active et très très qualitative dans les années 90, ce qui m'a permis de découvrir le rock un peu plus ancien, des trucs comme Hendrix, Pink Floyd, Dire Straits et bien d'autres. Et après, j'ai découvert, quand j'avais une vingtaine d'années, la musique plus électronique sur la scène plutôt trip-hop, hip-hop, justement, avec des artistes hip-hop et aussi des choses comme le label Ninja Tune,
ouais,
ou des trucs comme Portishead ou Morkeba.
DJ Shadow, tout ça. Ouais.
DJ Shadow, DJ Cam, DJ Crush. Effectivement, voilà, toutes ces scènes qui étaient également très prolifiques fin des années 90, début 2000.
Ouais, en France, on avait Dynasty aussi.
Oui, tout à fait. Je connais un peu Dynasty.
C'est
un chouette artiste à son époque.
Globalement, je crois que c'est le mec qui a un peu importé, en fait, le hip-hop en France dans les années 90, début 90, même fin 80, en fait. Il est pas mal, enfin, je veux pas dire qu'il est âgé, mais au moins de cinquantaine d'années, je crois, maintenant, Dynasty.
Ouais, c'est ça. Ouais, il fait partie des précurseurs du hip-hop en France, en effet.
Justement, c'est quelque chose qui t'a pas mal influencé, donc là, toute cette scène-là, assez trip-hop, donc plutôt anglo-saxonne.
Oui.
Ouais.
Exactement, ouais, là, j'aimais bien la scène anglo-saxonne, en effet, avec Ninja Tune. Tune et Big Dada.
Et label anglais. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, Big Dada, ça j'aime bien aussi ce genre de label-là, grave. Et pour en parlant de label, toi, comment ça s'est passé les débuts? Je crois que t'avais sorti un premier album en 2007.
Non, un petit peu après. Le premier morceau, c'est un remix. Il est sorti en 2009 ou 2010. On n'avait pas encore créé le projet Christine. Ah, donc, le projet Christine a été créé fin 2010, début 2011. Mm-hmm. Et c'est là que les premiers morceaux, premier EP sont arrivés.
D'accord.
Donc, avec un premier EP qui s'appelait Catharsis, un EP 3 titres. Et après, il y a eu Death on Wheels, il y a eu Brand New Fury, Ecstatic Soul. Et finalement, le vrai premier album, c'est Atom from Earth, qui est sorti en 2017. Ouais. Voilà, c'est le premier vraiment long format que le projet Christine a pondu.
Et alors justement, cet album-là, Atom from Earth, en 2017, donc à ce moment-là, vous étiez deux sur le projet. Ça a été un album qui a été difficile à mettre en place. Vous avez eu un soutien particulier pour le faire?
Je dirais que oui, la gestation a été assez difficile dans le sens où le projet était en mutation. Stéphane, le premier collaborateur, avait quitté l'aventure depuis quelques temps, mais on avait quand même passé pas mal de morceaux ensemble qui apparaissent sur cet album. Martin est arrivé dans l'aventure, donc apporté un petit peu de renouveau et de jeunesse dans le projet. Et moi, ma tâche à ce moment-là, qui n'était pas simple, c'était un peu de condenser tout ça et d'arriver à ressortir quelque chose d'à peu près cohérent. Donc voilà, c'est ce que ça a été. Et puis on crée notre label, enfin notre label Mouton Noir Records a été créé en 2015. Mais c'est le premier vrai gros album qu'on sortait sur le label. Avant ça, il y avait eu quelques EP, mais bon, disons qu'on lançait un peu la machine. Donc voilà.
Et justement, après ces débuts aussi de ces premiers EP, vous avez eu pas mal de récompenses en fait. Je voyais ça. Vous avez eu une bonne couverture aussi médiatique et tout. Ça s'est passé comment à cette époque-là? C'était genre vous avez fait les découvertes des Printemps de Bourges notamment. C'était plutôt Bouton Noir Records qui vous a poussé là-dedans ou vous avez vraiment décidé de vous inscrire dans ce genre de d'événements? Par exemple, il y avait le Fer aussi, ça nous le Fer, on connaît bien.
Non, le label n'existait pas à ce moment-là, parce que tous ces tremplins, c'était aux alentours de 2011, 2012, 2013. Ça, c'était plutôt dans le cursus un peu classique d'un groupe émergent en France, qui est de s'inscrire au Printemps de Bourges, de s'inscrire au Fer, de s'inscrire à la Dami. Et en fait, à la base, on s'est inscrit au Printemps de Bourges sans vraiment y croire, un peu comme ça. D'ailleurs, mon associé à l'époque n'était pas du tout pour, me disait mais on n'a rien à faire là, c'est de la musique, variété et tout. Et moi j'ai toujours été un peu dans l'optique qu'il faut essayer des choses, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Et donc à la surprise un peu générale, on a été sélectionné au Printemps de Bourges, aussi parce qu'à ce moment-là, l'entité du Printemps de Bourges s'ouvrait un petit peu à d'autres styles musicaux, notamment la musique électronique.
Ce qui maintenant, ils sont clairement ouverts aux musiques électroniques en plus maintenant.
Ouais, complètement. Bah, ils se sont actualisés, quoi. Maintenant, ils sont même très très hip-hop parce que c'est la nouvelle tendance de ces 2-3 dernières années. Donc, les choses évoluent. Et puis après, je sais pas, il y a eu un truc où on était lancé et tout s'est un peu enchaîné naturellement sans trop qu'on irait le concogite le truc. Donc voilà.
Est-ce que vous avez des projets justement maintenant en ce moment? Est-ce que tu as un projet en tête, peut-être d'un futur album ou quelque chose? Moi, je vois par exemple ton prochain concert, peut-être que, enfin, du moins que j'ai trouvé, c'est le 23 mars, vous jouez au Tetris, au Havre.
Ouais, c'est ça.
Tu joues au Tetris. Est-ce que en ce moment, t'as quelque chose de différent, par exemple, que tu prépares?
Ouais, je suis en train de préparer le show lumière de mon live. Donc, c'est une installation lumière que je suis en train de travailler avec une ingénieure son. Et puis, j'affine un peu les versions live de mon nouvel album pour que tout soit prêt le 23 mars au Havre et le 5 avril
à Paris. Petit bain, ouais, à Paris. C'est ça. Et justement, je comptais t'en parler de ça, de lien un petit peu du visuel, parce que c'est quelque chose d'assez important qui s'est vu depuis ces dernières années, de l'importance du visuel, surtout soit dans un DJ set, soit dans un live set. C'est vrai que c'est de plus en plus maintenant, il y a une scénographie particulière qui va avec un concert électro. Est-ce que donc toi, ça fait longtemps que tu fais ça, ou là justement tu décides d'avoir un show lumière et tout, ou t'en avais déjà avant?
En fait, on a toujours fait ça. Ouais. Alors après, encore une fois, ça a évolué. avec le temps, parce que justement, quand on a été sélectionné au Printemps de Bourges, on avait rien spécialement préparé ou cogité. Donc, au moment où on a su qu'on était pris, on s'est dit, oula, il faut qu'on propose quelque chose d'un petit peu différent, et pas juste deux mecs qui ont des machines sur scène. Donc à partir de là, nous, on a commencé à travailler avec de la vidéo sur scène. Donc, c'est notre premier truc, on faisait des mashups de vieux films, en fait. Donc, du coup, on prenait un peu toute notre culture cinématographique et on condensait ça dans des montages vidéo qui étaient derrière nous sur scène avec quelques lumières. On avait notamment des spots sur le devant nous qui faisaient un peu un effet phare de voiture. Donc c'était vraiment le truc fait avec des bouts de ficelle au début, puis au fur et à mesure, avec des années, avec un peu plus de moyens, on a mis en place différentes créas. On a eu une grosse créa live en 2015 avec des lumières très très puissantes. C'est assez cool, mais du coup la créa était presque trop grosse pour le projet, dans le sens où le budget était quand même assez important pour pouvoir jouer cette créa, et que finalement ça ne rentrait pas non plus partout, ça rentrait que sur des grandes scènes. Et moi j'ai toujours aussi apprécié jouer sur des petites scènes, quoi, des scènes. Je trouve qu'il est très agréable de jouer devant un public de 300, 400, 500 personnes. Je trouve même ça plus convivial que jouer devant 3000 personnes. Donc là l'idée c'est de reprendre un peu ces lumières de 2015-2016, mais dans un format un peu plus petit, pour rentrer dans des clubs, dans des petites salles.
Dans les smacks, par exemple.
Pas dans les smacks, voilà, exactement.
Et justement, ce gros show lumière, donc souvent, c'est quelque chose que vous faites avec donc, des techniciens dont c'est le taf. Ça se passe comment, en fait, quand toi, t'as une idée en tête et que tu veux, par exemple, voilà, tel show, c'est difficile un peu à mettre en place ce genre de truc?
Bien, je pense que comme dans toute collaboration artistique, il faut trouver la bonne personne avec qui il y a un feeling, avec qui comprend l'univers qu'on essaie de retranscrire et un petit peu les choses qu'on a dans la tête. Par moments, ça marche super bien, de manière assez naturelle, et par moments, pas du tout. On se comprend pas, ou la personne en face a vraiment une totale autre idée de comment doivent être faites les choses, et dans ce cas-là, ça peut être assez compliqué. Donc, au fur et à mesure des années, on a travaillé avec plusieurs ingénieurs lumière. Certains, ça a été super, d'autres, un peu moins.
D'accord. Ouais, c'est toujours, c'est les relations professionnelles dans ce domaine, quoi, carrément. Et donc, en ce moment, ça se monte petit à petit, et donc ce sera pour le Tetris pour la première fois. Est-ce que du coup c'est un événement qui m'ont dit de pas mal important, tu vas sûrement faire des nouveautés pendant ce live?
Ouais, je suis en train de préparer les nouveaux morceaux.
Et t'as une inspiration toute particulière, parce que déjà par exemple, c'est vrai que le côté Christine, c'est avec le nom de la voiture, tu me disais pendant vos lives les phares de voiture, c'est vrai que du coup ça fait vraiment penser, je pense, à l'imagerie du film et du roman. Il y a toujours un peu ce côté-là que tu veux garder, ou depuis t'as changé de direction, on va dire?
Je crois que non, ça reste un peu la base du truc. Alors là, je suis plus forcément dans un quelque chose avec des chars de voiture, mais je dirais que ça devient plutôt une sorte de vaisseau spatial rétro-futuriste. Donc il y a quand même des spots orientés vers le public qui font un peu penser à des phares ou à une énorme calandre. Donc ça reste un peu dans cet esprit-là, mais bon, après je me détache un peu du côté voiture pure, parce que là, au bout d'un moment, je trouve que ça reste un peu limité. Mais il y a ce côté industriel, brut et un peu sauvage que j'aime bien garder quand même.
D'accord. Ouais, je vois le genre. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un problème aussi, c'est que pendant longtemps, en fait, les gens ne dansaient pas forcément en regardant devant eux, mais maintenant les scènes ont changé avec les concerts dans les smacks et tout, etc. C'est vrai qu'on se retrouve en fait à regarder des gens faire un live set ou un DJ set, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup moins qu'un concert avec des ou avec un groupe ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu important. Est-ce que c'est pas devenu obligatoire d'avoir une espèce de show visuel en même temps, tu penses?
Ouais, je pense que c'est quand même devenu effectivement un peu obligatoire. Après, bon, il y a des tonnes de choses qui existent, hein. Moi, je vois des petits artistes qui ça y est, avec les LED aujourd'hui, il y a moyen de faire plein de choses pour pas très cher. Donc je pense que c'est important de se poser la question très vite sur un minimum de scénographie. Après, ça peut être simple, et des fois c'est des choses simples qui marchent le mieux, mais il faut, bon, de toute façon, voilà, on est dans un monde où la concurrence est rude, donc il faut savoir marquer la différence d'une manière ou d'une autre.
Alors justement, je vais te demander ce que t'en pensais du coup actuellement de la scène électro en France. Je veux dire en France plus particulièrement, parce que c'est vrai que déjà rien qu'en France la concurrence est rude, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu penses en ce moment de la scène électro qui explose vraiment énormément maintenant? L'électro, elle est présente dans tous les grands 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 festivals, même des fois en majorité. Moi, je pense au Transmusical de cette année où il y a eu beaucoup, ouais. beaucoup de groupes électro et beaucoup de DJ. Voilà, comparé, je pense, à d'autres certaines années. Est-ce que tu as même certains artistes que tu apprécies en ce moment?
Ou alors oui, de toute façon, la scène électronique française et mondiale, elle est toujours assez prolifique. Je me sens un peu moins proche de cette scène ces dernières années que j'ai pu l'être à mes débuts. Je trouve qu'il y a quand même une certaine uniformisation des choses. Ouais. Enfin, on marche par mode. Donc c'était un peu dernièrement, c'était un peu la mode du chill wave. Voilà. Donc on a avec des artistes comme Flume, Mom, Fakir. Je trouve ça bien, mais je trouve qu'on a tendance à trop uniformiser et plutôt qu'à diversifier. Là où pour moi il serait intéressant d'explorer un spectre musical un peu plus large, allant, je sais pas moi, du chill à la hard tech, en passant par l'électro, la techno, et voir pourquoi pas du hip hop. Je trouverais ça cool qu'il y ait ce spectre vraiment présent en festival et en programmation dans les salles, alors qu'on se cantonne à un style. Alors pareil, on a la scène deep house qui est très très présente avec
depuis un bon bout de temps même maintenant, ouais.
Et ça m'a presque écœuré, saturé, quoi. Enfin, en fait, j'ai même arrêté d'aller en club finalement depuis un an ou deux, parce que j'avais l'impression que je passais 6 heures, 8 heures dans un club à écouter le même disque, et je trouve ça un peu dommage, en fait.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas faux. Puis en plus, c'est vrai qu'en plus il y a certains genres qui sont ressortis à fond comme ça, ouais, la house et tout. Puis même, je pense aussi à certaines sortes de trance, la trance aussi est revenue à la mode de manière assez énorme aussi récemment. Et du coup, oui, ça fait je peux comprendre, ouais, qu'en plus quand toi tu fais déjà quand même du son depuis quelques années, du coup la scène électro tu dois la connaître. C'est vrai que si tu la vois évoluer, en fait t'as peut-être dû voir les modes revenir limite, quoi.
Alors pas encore, ouais, j'ai pas encore fait le grand chelem, mais
ça va tarder, ça va tarder, ça prend pas trop de temps.
Oui, c'est possible, ouais. C'est vrai qu'avec là un artiste comme Geza Solstein ou Sébastien qui reviennent cette année,
ouais, c'est vrai.
Ou même Mode Selector qui vient de ressortir un album, je me dis que je vais peut-être réapprécier un peu certains festivals ou certains clubs. Donc j'ai hâte de voir ça, et j'ai hâte j'ai envie que ces artistes notamment Geza Solstein, on attend tous un peu de voir si le gars va faire de la techno ou s'il s'est mis à faire de la musique commerciale, parce que là ce qu'il nous présente pour le moment ça ressemble plus à de la musique commerciale faite pour marcher qu'une proposition artistique telle qu'on l'attend pour les gens qui ont aimé son premier album, quoi.
Alors, parce que justement moi j'ai vu la com à propos de tout ça, mais j'ai rien entendu encore. Il a sorti quelque chose là récemment, Geza Solstein?
Ouais, il a sorti un premier titre avec The Weeknd.
D'accord.
Qui est un peu mou, je trouve.
Ouais, pour du Geza Solstein, c'est bizarre.
Il a sorti une instru pas désagréable, mais pas non plus très surprenante. Mm-hmm. Et puis il a annoncé la tracklist, il y aura notamment un morceau avec Pharrell Williams. Donc on a un peu l'impression que le gars utilise la formule Daft Punk.
Oui, il est en train de sortir son Random Access Memories, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
C'est un jugement, mais moi j'aime pas trop cet album en particulier, quand on compare aux autres. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, ouais, il y a un côté facilité qui peut s'y arriver assez facilement dans l'électro, quand ça arrive, quand tu finis par vouloir faire des featuring, etc., vouloir t'uniformiser, c'est sûr.
Bah les featuring, moi par exemple j'en ai beaucoup sur mon album, mm-hmm. Donc moi je trouve que ça peut être très intéressant, mais faut pas rechercher. Enfin, encore une fois, il y a un feeling dans la pratique artistique, je trouve, donc il faut qu'il y ait un vrai feeling avec l'artiste avec lequel on collabore, mais il faut pas aller chercher un featuring juste pour avoir un nom sur son disque. Comme ça se fait dans le rap, il y a des artistes qui vont aller chercher le feat Snoop Dogg, et Snoop Dogg va apparaître 4 secondes dans le clip, mais ça a aucun sens, en fait.
Ouais,
l'artiste n'a pas vraiment travaillé avec Snoop Dogg, il a juste acheté la présence de cet artiste sur son disque. Donc pour moi, on n'est plus dans l'art, on est dans le business, quoi. Donc ça devient vachement moins intéressant.
Je propose qu'on parle un peu de ta musique en passant un petit extrait. Je sais pas si tu veux choisir un morceau que tu voudrais nous faire passer avec un petit détail dessus,
pourquoi pas le morceau avec le Spectre, qui est le Lust Generation, le morceau numéro 2 de l'album, qui est justement un artiste que j'apprécie énormément, qui a une musique très confidentielle. Il a fait un album et un EP. J'adore son premier EP qui est sorti il y a 3-4 ans. C'est en écoutant ce EP fait que j'ai voulu travailler avec lui.
C'est que,
on a tous les deux l'amour des Le Spectre.
Le Spectre, d'accord.
On a tous les deux l'amour des vieux synthétiseurs et on s'est retrouvés là-dessus en commençant à jouer quelques mélodies ensemble et du coup on a eu envie d'aller plus loin. Donc ce titre, je trouve, représente bien à la fois son travail et le mien.
Donc c'est Lost Generation.
Ouais, Lost Generation, okay. le morceau numéro 2.
Ok, et ben je propose qu'on se passe ça tout de suite sur Radio Pulse. Un petit Lost Generation de Christine en featuring donc avec Le Spectre. Bah tout de suite sur Radio Pulse 90 FM. Et donc c'était Lost Generation de en featuring avec Le Spectre de Christine. Est-ce que tu voudrais par exemple rajouter quelque chose? J'imagine on peut rappeler tes prochaines dates.
Alors donc prochaine date le 23 mars au Tetris au Havre et le 5 avril au Petit Bain à Paris.
Voilà
et après je décolle pour une tournée en Asie et je reviendrai en mai.
D'accord, avec grosse tournée en Asie après derrière, c'est pas mal ça. Tu vas vers où?
Jakarta, Bali, Kuala Lumpur, et puis d'autres noms un peu compliqués que j'ai pas retenu.
J'ai cru remarquer que du coup t'as l'air de bien marcher dans le coin, parce que t'as joué à Bangkok il y a pas longtemps, non?
Ouais, j'étais en Thaïlande à Bangkok au mois de décembre. Petit à petit, je développe un peu la visibilité de Christine à l'étranger. Carrément. Donc voilà, ça se passe pas trop mal.
Ah bah c'est tant mieux. Je te souhaite un max de réussite pour tout ça. Alors en espérant que ces dates en Asie se passent bien, et aussi cette date au Tetris. D'ailleurs, il y a pas que toi, il y a pas mal de DJ plutôt pas mal aussi qui vont passer ce soir-là au Tetris.
Ouais. Shiroki, Pantero 666, ouais. et un projet du Havre, Blackmo.
Ouais, peut-être. Blackmo, ouais, ça me dit quelque chose. Pantero, c'était un des gars de Club Cheval, je crois.
Exact.
Il me semble. Et c'est pas trop mal ce qu'ils font. Et puis Cherokee, on connaît bien aussi ça, Cherokee. C'est cool aussi. Donc peut-être grosse soirée en perspective au Tetris.
Oh ouais, je pense que ça va être un bon bordel.
Ouais, carrément. Mais écoute, voilà, je te remercie.
Il y a de fortes chances.
Je te remercie beaucoup pour d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te souhaite une bonne tournée.
Merci à toi.